7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. C'est le rendez-vous des tchatcheuses aujourd'hui. Comme chaque mois, je reçois trois femmes journalistes de trois coins du monde pour commenter en toute liberté l'actualité et bien sûr le résultat du premier tour à la présidentielle en France, mais pas seulement. Hein. Aujourd'hui, au Club des tchatcheuses, nous avons Elena Gabrielian. Baref, Elena.
Baref.
Vous êtes journaliste venue du Caucase, arménienne, à la rédaction russophone de RFI. Vous avez grandi essentiellement en Ukraine. C'est ça, Elena?
Oui, et un petit peu en Arménie.
Voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'on disait pendant le journal. Vous avez découvert la langue française à 21 ans, donc il y a très peu de temps, puisque vous êtes une jeune journaliste et vous parlez sans accent. On va le découvrir avec émerveillement. Ana Navarro Pedro, bom dia.
Bom dia.
Journaliste portugaise, correspondante à Paris pour l'hebdomadaire Visão. Vous êtes un peu sous l'eau, évidemment, en ce moment, Ana.
Et oui, avec quoi, en fait?
Merci d'être avec nous, en tout cas, en direct chez 7 milliards. Également, Safi Luna, Inisogoma. Safi Luna. Journaliste malienne à la rédaction Mandingue de RFI. Et puis en fin d'émission, mesdames, en cette époque de déconstruction permanente, eh ben on laissera la parole à un patron californien qui prône la journée de 5 heures pour plus de productivité. Vous êtes bien chez 7 milliards de voisins.
Si tu peux me laisser aller jusqu'au bout, s'il te plaît.
Tchatcher, ça veut dire bavarder, discuter, exagérer.
Tu veux bien me répéter ça?
Tchatcher, c'est parler avec plaisir.
Mais je veux dire, soyons clairs là, je veux dire.
Oh.
Sinon.
I beg your pardon.
Tu vas. Non, mais si.
Ce sera tout.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Ana Navarro Pedro, Safi Luna, Elena Gabrielian, que vous inspirent les résultats du premier tour de l'élection présidentielle? Le Front National, pour la seconde fois de son histoire, présent au second tour, c'est plus une sidération, ni vraiment une consternation, je dirais, c'est une réalité, Ana Navarro Pedro.
C'est une réalité, ça m'inspire et de l'appréhension à court terme, et en même temps de l'admiration pour les Français, parce qu'on sait depuis longtemps qu'ils ne supportent plus la classe politique qui les dirige, qui les représente, ni les gens, ni leur façon de faire de la politique. Eh bien, ils les ont fichus dehors.
Ils ont montré la porte. Ils ont renversé la table, c'est ça.
Ils ont renversé la table, quoique, on lui représente. Personnellement, je suis assez critique et je le ferai pour mon journal sur le personnage Macron, Emmanuel Macron. Donner gagnant avant même le vote.
Alors,
du deuxième tour.
On va terminer le tour de table déjà. Safi Luna, vous, que vous inspire le premier tour? Vous avez regardé, j'imagine, hier soir.
J'ai plutôt suivi à la radio.
Oui.
Et je pense que ça ne m'étonne pas que Marine Le Pen soit à ce stade, mais ça m'étonne plutôt que les gens, surtout les Français, n'arrivent pas à accepter qui elle est et qui ils sont réellement. Beaucoup de gens sont là à prôner les idées de Marine Le Pen au fond d'eux, mais ils ont peur de l'exprimer. Je pense qu'il ferait mieux d'accepter leur...
Ah bah là, tout de même, l'expression a été claire, même si...
Ceux qui ont voté pour Macron ne l'ont pas exprimé. Ils ont plutôt suivi Macron parce qu'ils ont peur d'un jugement extérieur. Et moi, je trouve que Macron n'avait pas sa place en deuxième tour, honnêtement.
Ah bon?
Non, du tout. Il aurait pu être remplacé par Jean-Luc Mélenchon. Et celui-là, d'après les sondages qu'on a eus, il était en progression la dernière semaine. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il avait sa place en second tour.
Vous auriez aimé donc un deuxième tour des extrêmes?
Oui, entre Mélenchon
en tant que journaliste malienne,
Marine,
qui ne peut pas voter donc.
Oui, qui ne peut pas voter malheureusement. Mais j'aurais bien voulu voir ce clash des titans.
Oui.
Marine Le Pen contre Mélenchon.
Ah, ça aurait été passionnant. Hein.
Et pour vous, Elena Gabrielian?
Écoutez, moi j'ai passé la nuit électorale au QG de François Fillon. Et ce résultat ne m'a pas véritablement surpris, disons Macron et Marine Le Pen. Ce qui me surprend quand même, c'est que Marine Le Pen a fait quand même un score assez important. C'est ce qu'on disait déjà pendant quand on voyait les résultats des sondages. Et moi, ce que je vois en tout cas de point de vue des pays post-soviétiques, en tout cas de la Russie, c'est que c'est un candidat pro-russe et même, je dirais, pro-Poutine, parce qu'elle était la seule à être reçue par Vladimir Poutine pendant sa campagne électorale, et une candidate eurosceptique qui est pour la sortie de l'Union européenne, anti-atlantiste, donc tout ce que veut en quelque sorte la Russie. Donc pour moi, c'est en quelque sorte deux candidats pro-russe et pro-Poutine et anti-Poutine. Je ne vais pas dire russe parce que la Russie, c'est pas que Poutine.
Sur le plan de la société russe, Elena Gabrielian, pourquoi vous avez l'impression, alors en dehors du fait qu'elle a été la seule candidate reçue par Vladimir Poutine, vous avez le sentiment que les Russes ont une certaine admiration pour elle?
Oui, parce qu'elle incarne...
Alors, la société russe, c'est difficile de généraliser, bien sûr.
Oui, bah, disons que la grande majorité des Russes qui regardent les chaînes de télévision fédérales considèrent que Marine Le Pen, elle incarne plutôt la France patriotique, la France plus indépendante, souverainiste. C'est plus cette image-là qu'à Marine Le Pen, que leader d'une partie politique qui représente en danger ou parti extrémiste. C'est pas ça qui incarne Marine Le Pen. C'est plutôt, disons, Donald Trump à la française qui va instaurer des bonnes relations avec la Russie et contre l'atlantisme, mais pour cette Europe qui va jusqu'à Oural et donc qui à chaque occasion vraiment soutient Vladimir Poutine. Ça, il faut le dire également. La seule qui reconnaît l'annexion de la Crimée. On avait vu d'autres candidats, ils étaient plutôt, ils menaient plutôt la position qu'a le gouvernement français aujourd'hui.
C'est vrai que la position par rapport à la Russie a été quelque chose d'important dans les débats dans la présidentielle.
Mais il faut dire que c'est la première fois qu'on parle
chacun
autant...
devait se situer par rapport à la Russie en tout
absolument.
Cas.
Absolument. Et c'est dû également à la politique internationale, puisque la Russie est engagée dans le conflit syrien et tout le monde était amené à s'exprimer sur ça, mais aussi sur parce que dans les médias russes, dans les médias français, on parlait beaucoup de l'ingérence. C'est pour ça que tout le monde était amené à s'exprimer. Donc la Russie était très très présente lors de ces débats.
Anna Navarro-Pedro, alors vous voulez revenir sur Emmanuel Macron puisque vous préparez un dossier sur lui pour votre journal portugais. Emmanuel Macron, c'est quand même un candidat qui est parti de rien il y a un an. Lancé en politique il y a 5 ans, il entre à l'Élysée comme secrétaire général. On a quand même l'impression que c'est l'avènement du temps court sur le temps long de la politique, avec des carrières qui sont extrêmement lentes et longues globalement en politique. Est-ce que c'est le signe de quelque chose qui a complètement changé, d'une époque de l'immédiateté, y compris en politique?
Ça peut en être effectivement le
39 ans, 5 ans de carrière politique, c'est quand même...
Oui, ça peut dire en être ça vraiment le signe, mais je mets un bémol parce que ça le serait complètement s'il n'y avait rien derrière lui pour le pousser. Or, Macron n'est pas le fruit d'une volonté, d'une détermination personnelle face à un paysage politique éclaté. Et en voyant son opportunité, il a derrière lui des puissants leviers. Le président de la République, avec tout ce qui, déjà François Hollande, c'est son fils, son dauphin en politique. Et donc, avec tout ce qui s'implique des moyens de l'État derrière lui. Mais pas que. Emmanuel Macron, on sait bien qu'il a été... lisez des articles dans Le Monde, dans Vanity Fair, dans la presse française, qui font des enquêtes là-dessus, sur ce groupe qui s'appelle les GRAC, qui est une sorte de lobby, groupe d'action de hauts fonctionnaires, des énarques, c'est-à-dire des gens qui ont fait cette école maudite en France, qui forment la haute fonction française, donc le même moule, c'est le même moule qu'on met dans un four, et de toutes sortes absolument
garant
identiques.
Garant aussi d'une continuité de la haute administration française.
Et garant d'une continuité dans l'aveuglement de cette, par rapport à cette société aussi, pour beaucoup de gens dans ce pays. Eh bien, ce groupe Les Gras a parié sur Emmanuel Macron dès le départ, avec Jacques Attali, avec Jean-Pierre Jouyet et d'autres. Et effectivement, voilà, il y a eu tout un travail derrière lui. Et il faut être très naïf pour croire que ce monsieur Macron décide de quitter le gouvernement en été dernier et qu'en septembre, il a toute une formation dans tout le pays sans qu'il n'y ait pas un plan d'énarque très efficace derrière pour soutenir cette démarche. Et effectivement, je crois même que c'est dans Vanity Fair que le journaliste dit, mais je lui laisse la responsabilité, qu'il a été choisi dès le départ, qu'on l'a mis à la banque Rothschild pour le former un tout petit peu à ce qu'est la réalité des affaires. On lui a donné quand même une bonne affaire, une bonne fusion à traiter. Donc vous voyez, il ne faut pas croire.
Moi, ce qui m'inquiète... C'est le complot de la finance, c'est ça?
Ce n'est pas un complot. Ce qui m'inquiète, c'est cette idée permanente en France depuis le siècle des Lumières, que le despotisme éclairé est quand même la voie de choix pour bien gouverner un pays et pour le faire avancer. Et cette idée, elle est là. Je l'ai trouvée souvent, par exemple, par rapport à l'Europe. Je me souviens des débats à la porte à huis clos avec Hubert Védrine à l'UNESCO, ici à Paris, où il disait, mais effectivement, l'Europe ne peut se faire que par le despotisme éclairé. C'était il y a 12 ans. Regardez où en est l'Europe maintenant, le fruit de cette idée-là. Eh bien, Macron, c'est la même chose. C'est des gens qui ne veulent pas aller au contact des gens, au contact du peuple, se cogner. Au moins Macron, il a essayé d'y aller. Je lui reconnais ça. Et mais qui veulent gouverner en susurrant à l'oreille de ceux qui sont au pouvoir. C'est détestable, c'est exécrable et c'est condamné à l'échec.
Alors, mesdames, comment vous réagissez ?
Ça revient à ce que j'ai dit, c'est pourquoi je disais que Macron n'avait pas sa place. La preuve que Macron est le fillon, le filleul de Hollande. On a fait, une fois, j'ai suivi quelque chose à la télé, je me souviens plus de la date exacte, mais il y avait une sorte de comparaison des discours. Les mêmes mots de François Hollande durant sa campagne ont été repris par Emmanuel Macron. Donc, ça sert au fait à rien. C'est comme quelqu'un qui a été, comme elle l'a dit, qui a été prédestiné à ça, au fait.
C'est sur la société française, puisque ces votes sont les résultats d'aspirations de millions d'individus. Si on revient à ces deux France qui s'opposent aujourd'hui sociologiquement, selon les enquêtes, selon les sondages, enfin, il y aurait même quatre France d'ailleurs, enfin, sur deux visions de l'avenir en tout cas, et des chamboulements de notre époque. Comment vous voyez, on a beaucoup dit, il y a d'un côté le Front National et souverainiste, le vote de l'extrême gauche, c'est une France populaire de l'inquiétude, du ressentiment, et puis en face, une vision plus optimiste, à l'aise avec la mondialisation, une France plus aisée aussi et plus moins inquiète, beaucoup plus positive face aux transformations de notre époque. Anna Navarro Pedro, Elena.
Nous, en tout cas, on voit vraiment la division ou la décomposition non seulement de la classe politique française, mais aussi de la société française. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les Français ne votent plus avec les mêmes habitudes qu'ils avaient entre gauche-droite. On voit la gauche décomposée, la droite aussi, et maintenant, même pas seulement les candidats, mais aussi leurs militants doivent s'exprimer, qu'ils vont soutenir au second tour. Et moi, j'ai vu par exemple, côté Fillon, ils n'arrivaient pas du tout à se décider. D'un côté, ils disaient, mais si par exemple, il y avait Alain Juppé, j'aurais soutenu Alain Juppé. Macron, il est très jeune, je ne sais pas. Donc, il y a beaucoup de questions de personnalité d'un côté, mais de l'autre aussi, des idées ou une vision de la France que, franchement, ces militants, ils n'arrivent pas à s'exprimer tout de suite à la sortie du premier tour.
Anna, sur ces deux France,
il y a une montée, elle est aussi, il y a une montée des inégalités très grande dans ce pays. Et c'est ça qui est
hier, c'était le résultat de ça.
C'est le résultat de cela. Et c'est pour ça que vous avez des gens qui votent traditionnellement extrême droite Marine Le Pen, qui ont cette fois-ci voté pour Mélenchon au premier tour parce que, et qu'est-ce que vous voulez, extrême gauche, extrême droite, les extrêmes ne se touchent pas tant que ça, parce qu'il a dit des choses qui leur convenaient, qu'ils avaient envie d'en voir entendre. Mais ils vont revoter Marine Le Pen maintenant parce qu'ils se sentent exclus d'une certaine France, et cette France-là, depuis 1789, vous avez écrit au fronton de tous vos immeubles et de toute votre politique le mot égalité, et la montée des inégalités, elle est une bombe à retardement dans
Alors il n'y a pas que les inégalités, parce que si on regarde Macron, c'était complètement improbable il y a encore quelques mois. Si on regarde encore en arrière, après l'élection de Trump, le vote en faveur du Brexit en Grande-Bretagne, l'élimination des grands partis historiques en France avec les primaires, on n'a pas du tout eu les candidats qui étaient programmés pour. On peut se demander, est-ce que l'électeur n'est pas devenu un espèce de y en a marre, un dégagiste permanent, programmé pour surprendre en permanence, non ?
Je pense que c'est allé peut-être trop loin. Je pense que pour l'instant, il y a vraiment la manifestation d'un très grand mécontentement avec la façon dont la politique est faite, qu'on est à la recherche de nouvelles façons institutionnelles et de représentation.
Pas qu'ici,
c'est général, pas qu'ici. Puis il y a d'autres choses que vous pouvez ajouter aussi, notamment la position de l'homme dans la société aussi. Bon, il y a beaucoup d'études là-dessus maintenant, c'est pas le moment d'entrer là-dedans, mais il y a énormément d'éléments. Mais il devient aussi consumiste en politique. C'est un consommateur qui regarde un peu les promotions et les produits qui lui conviennent.
Emmanuel Macron, embrassant son épouse, monté sur scène elle aussi, aussi avec un mélange de jubilation, de stupéfaction et peut-être même de vertige, je ne sais pas. Mais, et puis ensuite en route pour le quartier de Montparnasse, saluant les passants à travers la portière. Que vous évoquent ces images? Parce que le soir d'une élection, on est aussi beaucoup dans l'image, dans la communication, ce couple atypique.
Non mais attendez, moi j'entends déjà le grand plouf que ça va donner à un moment donné. C'est pas possible autrement. C'est Macron a depuis le départ une position presque christique.
Et vous, mesdames, un grand plouf annoncé ou pas?
En tout cas, ce qui m'a véritablement surpris, c'est que c'était un discours déjà d'un président
de vainqueur, quoi,
de vainqueur, comme s'il avait gagné le premier tour.
Et le deuxième,
enfin le deuxième tour. Et moi, je pense que ces deux semaines qu'on a avant le deuxième tour s'annoncent très très difficiles. Surtout, on sait que la situation avec la menace de terroriste, la montée de la popularité des partis extrêmes préconditionne en fait ce climat assez difficile. Donc, c'était très très anticipé d'avoir ce discours d'un grand vainqueur.
Et vous, Safi
Luna, sur anticipé,
ces images hein,
sur... Très anticipé sur le discours déjà. Je trouve qu'il a ses raisons, parce que comme Anna l'a dit, il sait qu'il a des leviers derrière. Donc, il sait très bien que quoi qu'il se passe, ils ne vont pas le lâcher. Donc, si Macron prend un discours tel quel, pour une fois, il est sorti de son jeu. Il n'a pas fait semblant cette fois-ci. Il a montré clair et net. Je suis soutenu. Je fais confiance à mes arrières. Et voilà, c'est ça.
Mais devant, il y a le peuple aussi.
Oui, il y a le peuple, sauf qu'il y a des fois où ce n'est pas le peuple qui décide. Si le peuple décidait, Donald Trump ne serait pas là où il est. Donc, il y a des fois où le peuple ne décide
aucun
pas.
Aucun commentaire sur le couple Macron, le couple atypique, surtout si on le place en face du couple ultra-conservateur, du couple Fillon, par exemple, avec une épouse mère au foyer, famille nombreuse. Ouais. Signe aussi que la société bouge, change, évolue. Ça fait déjà maintenant plusieurs mandats qu'on n'a plus réellement de première dame avec un couple élu et qui reste pendant toute la durée du mandat marié. Depuis deux mandats, on n'a plus ça.
Le fait que son épouse fait référence à la grande différence d'âge, je pense que ça n'a pas tellement... Ça peut-être fait sourire une certaine partie de la France, sans plus.
Ouais. Bon,
ça
ne fait pas. On s'en fout, ce n'est pas un sujet. C'est ça que vous voulez
non,
dire?
Non, la seule chose très intéressante, c'est Brigitte Macron qui téléphonait à Carla Bruni Sarkozy, donc ancienne première dame, lui demandant des instructions pour comment faire à l'Élysée quand elle serait présidente. Et ça, des semaines avant le premier tour. Carla Bruni Sarkozy a quand même eu une attitude digne de lui raccrocher au nez. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce couple, il était prédestiné, n'est-ce pas?
Sur ce changement, je trouve que les gens commencent à comprendre, surtout en Europe, les gens commencent à comprendre que les familles nucléaires, ça n'avance à rien. Déjà avec l'âge, les enfants, chacun va de son côté. Oui, ça n'avance à rien. Déjà avec l'âge, les enfants,
le prochain chacun... président sera polygame, non?
Non, pas polygame. Je ne suis pas pour la polygamie. Je ne suis pas pour la polygamie, mais les familles nucléaires aussi, souvent, ça craint. Parce que les enfants, quand ils vont grandir, chacun ira de son côté. Après, les parents vont se retrouver aux maisons de retraite et voilà. Mais quand tu as une famille plus ou moins entre guillemets grande, ça va, il y a tellement de chaleur, il y aura moins... En fait, les gens ont commencé à comprendre que la mondialisation, ouais, c'est bien, mais il ne faut pas robotiser le monde. Ça n'avance à rien. Par fini, il y aura tellement de chômeurs, tellement de gens qui seront mécontents, tellement de gens qui seront... Il y aura tellement d'inégalités. On ne le voit pas tout de suite, mais dans 10 ans, on le verra. Quand tout sera les guichets automatiques, les machines, les intelligences artificielles vont commencer à nous mener par le bout du nez.
Et les gens vont marier un robot.
Oui, quand on va se marier un robot ou quand on se réveille en demandant à son lit.
Mais alors vous, Safi Luna, évidemment, vous ne pouvez pas voter. Vous êtes en France depuis pas si longtemps que ça, d'ailleurs.
Du tout.
Depuis combien d'années?
Même si j'avais le droit.
Vous avez encore un regard plein de fraîcheur sur l'élection française.
Oui, surtout sur la politique française, parce que honnêtement, avant de venir ici en France, je ne connaissais absolument rien de la France. La preuve, c'est mes collègues qui me disaient c'est ça la droite, c'est ça la gauche.
Alors,
parce que
si vous aviez pu voter, vous auriez voté pour qui?
Marine Le Pen.
Ah ouais?
Ah oui.
Franchement?
Franchement. Parce qu'elle, au moins, elle est contre la robotisation du monde, si je peux me permettre du mot. Je sais qu'elle déteste
Anna Navarro,
vous avez dit que vous aurez soutenu Mélenchon.
Et vous, Anna,
oui,
alors,
je parce que j'ai posé Mélenchon la question. Parce que lui, au moins, il est un peu équilibré.
Et vous,
Marine
Anna,
Le Pen,
j'aurais voté
extrême.
Blanc et j'aurais gueulé comme un putois.
Et vous, Elena?
Pour moi, c'est extrêmement difficile parce que moi non plus, je n'ai pas le droit de vote. Mais je pense que dans les circonstances actuelles, entre Le Pen et Macron, je soutiendrai plutôt Macron.
Vous restez avec nous les tchatcheux juste après le flash. On aura un autre coup de gueule d'Anna quand il se passe ceci dans un avion.
Ah,
vous en saurai juste un petit peu plus juste après le flash. Ça sera dans 3 minutes. Les tchatcheuses, ça continue chez ça.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, c'est le club des tchatcheuses. Ça veut dire qu'on a trois tchatcheuses. Safi Luna, journaliste malienne à la rédaction Mandingue de RFI. Anna Navarro-Pedro, journaliste portugaise, correspondante à Paris pour l'hebdomadaire Visao. Et Elena Gabrielian, arménienne à la rédaction russophone de RFI pour commenter l'actualité qui leur plaît. Évidemment, on a beaucoup parlé en première partie d'émission du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Et retour maintenant, puisque ce sont vous qui décidez de vos sujets, mesdames. Retour sur ce qui s'est passé il y a quelques jours dans un avion de la compagnie United Airlines. Anna Navarro-Pedro, on n'a pas besoin de traduction. Oh my God, des passagers extrêmement choqués dans un avion d'une ligne intérieure aux États-Unis, Chicago-Louisville, un avion surbooké et un homme qui est violemment expulsé de cet avion surchargé. C'était le dimanche 9 avril. Pourquoi vous avez voulu revenir sur ce sujet ?
Pour plusieurs raisons, parce que c'est un point culminant de toute une politique de compagnie aérienne et de compagnie d'entreprise dans le monde occidental au moins, qui considère son client mais comme une quantité négligeable et qui le traite sans aucun égard. La pratique du surbooking aux États-Unis est encore plus intense que pour nous en Europe.
Ah
je
ne
sais pas ce qui se passe en Afrique.
Largement plus.
Ce qui fait que sur chaque vol...
Il y a trop de passagers, il nous manque de place, voilà. On vous propose un dédommagement et vous sortez de l'avion et vous reprenez l'avion suivant ou l'avion le lendemain. C'est ce qui était proposé à ce médecin d'ailleurs, David Dao.
Voilà, c'est ça. Ensuite, comment on choisit les gens qu'on va éjecter de l'avion ? Sur quels critères ? Alors, évidemment, les compagnies nous disent qu'ils
essaient... le volontariat.
Oui, sauf que les gens qui ont acheté un billet d'avion, normalement, c'est pour partir, pour arriver quelque part. Donc, souvent, ils ont des gens qui sont contrariés, qui ne veulent pas quitter et qui sont désignés d'office. Donc, ils ont un programme pour désigner les gens d'office. Ça a posé la question. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des critères raciaux derrière ces choix ? Là, c'est tombé sur un médecin asiatique. On lui a cassé le nez.
Voilà, qui a refusé de quitter l'avion parce qu'il avait besoin de voir ses patients.
Et les cris qu'on entend très fort sur le son, c'est on lui casse le nez, on le frappe violemment et on le traîne par terre.
Il est tombé sur un accoudoir aussi.
Il est tombé parce qu'on lui a cassé son visage sur l'accoudoir. Il n'est pas tombé puisqu'il était assis. Donc, c'est difficile de tomber. Voilà. Ensuite, il y a la politique de communication d'United Airlines. C'était tout de suite après culpabiliser le passager et la clientèle. Et ce n'est qu'après, quand ils ont commencé à avoir des boycotts et que le stock, que la valeur en bourse a baissé, qu'ils ont changé leur fusil d'épaule, qu'ils ont commencé à faire une enquête, à demander des excuses, et que le patron lui-même d'United Airlines a été mis sur la sellette. Son salaire
Alors
a été automatiquement diminué.
Ou finalement sur la violence des multinationales américaines.
Ce que je veux dire, c'est pas que la violence. C'est il y a une tendance, et c'est aux États-Unis, mais ça vient en Europe. Il y a une tendance de la part des entreprises vraiment à avoir une attitude de tyrannique vis-à-vis du client. Je vous donne d'autres exemples. Dans d'autres compagnies, la même compagnie, des fillettes qui portaient des leggings sont interdites d'entrer dans
l'avion. Des pantalons extrêmement serrés, moulants, parce que ce n'était pas une tenue correcte.
C'était une piconnée. Ce sont des fillettes, 10 ans. Okay. Je vous donne... Il y a plein d'autres exemples. Une femme n'a pas pu entrer dans United Airlines parce qu'elle avait un décolleté qui déplaisait, qui était considéré pas... Donc, et il n'y a pas que cela. On va plus loin. On sort des compagnies aériennes, industrie pharmaceutique. Les prix des médicaments augmentent aux États-Unis de façon incroyable. Les actionnaires des compagnies pharmaceutiques, qui sont aussi des consommateurs, demandent des comptes aux dirigeants, qui sont leurs employés, ok, on est bien d'accord, sur la formation des prix des médicaments. Eh bien, vous savez quoi ? Ils sont tous à la Maison-Blanche en train de faire du lobbying pour qu'il y ait un décret qui interdise aux actionnaires de poser des questions sur la formation des prix des médicaments aux États-Unis.
Donc, voyez... Sur le consommateur, vous semblez dire que le consommateur est complètement pris en otage des entreprises, des politiques marketing des entreprises. En même temps, les consommateurs aux États-Unis ont un pouvoir incroyable, notamment avec maintenant les actions de groupe.
Et ils ont commencé
à
réagir.
On ne peut pas dire dire que les consommateurs sont dans un pays où ils n'ont pas de droits, franchement.
Ils ont commencé à réagir et finalement, si vous regardez un peu les médias indépendants, pas le mainstream, mais les médias indépendants, c'est ce qu'ils disent. D'abord, ils ont été à la pointe du combat en disant « allons-y, punissons-les ». Et ensuite, ils ont réussi à avoir des résultats puisque l'action de United Airlines a baissé, l'action de certaines industries pharmaceutiques a baissé. Même American Airlines, un steward frappe une maman, une jeune maman avec la poussette parce qu'elle lui déplaisait à cette femme avec sa poussette. Il la frappe avec la poussette, ouais. Il a presque frappé le bébé. Eh bien, American Airlines a failli voir ses actions tomber très, s'il n'avait pas réagi.
Non, puis surtout, il y a des procès, c'est-à-dire que ces consommateurs font des procès aux entreprises et les gagnent.
Et quand même.
Récupèrent des dommages et intérêts extrêmement importants.
Mais regardons ça de l'autre côté, et quand même, ayant tous ces moyens de pression, les entreprises se remportent la sorte. Ouais. Eh bien, donc, il faut maintenant, effectivement, c'est une nouvelle bataille de civique et civile pour les électeurs et les consommateurs.
Bon, nouvelle bataille pour les consommateurs, ça devient oui, une question politique.
C'est politique. Tout est politique, Elena. Emmanuel.
Elena Gabrielian.
Dans le sens vaste du mot.
Est-ce que c'est une bataille politique? Je pense que oui, surtout dans une société comme américaine où tout est extrêmement politisé.
Safi Luna, je vous sens un peu dubitative.
Personnellement, je suis sous le choc. Je n'ai jamais pensé ça dans un monde occidental. Jamais.
Si ça veut dire, c'est-à-dire
Le surbooking au point de se faire expulser. C'est tout à fait le contraire en Afrique. Tu verras tout le temps des sièges vides dans les avions. Mais jamais surbooké.
Vous connaissez d'autres types d'expulsions, en effet.
D'autres types d'expulsions, oui, mais je n'ai jamais imaginé ça, honnêtement.
Elena Gabrielian, vous souhaitez revenir sur la persécution des homosexuels en Tchétchénie, à quelques jours d'ailleurs de la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie.
En fait, en Tchétchénie, les homosexuels sont persécutés de masse. C'est ce qu'on nous informe le journal indépendant de Novaya Gazeta. On a appris le 3, enfin début avril, le 1er avril, dans un article rédigé par une journaliste de ce journal, qui a mené une enquête. Elle nous informe qu'il y a une centaine de homosexuels qui ont été persécutés, dont 3 ont été tués par des autorités. Et ceux qui n'ont pas, enfin, ceux qui ont réussi à fuir cette république du Caucase du Nord, qui est située dans la Fédération de Russie, se trouvent maintenant soit à Moscou, soit dans d'autres grandes villes et vivent ou témoignent sous anonymat. Ils ont vraiment peur de témoigner, que ce soit pour aux organisations défenseurs des droits de l'homme ou bien pour des journalistes. Les autorités avaient une réaction extrêmement bizarre. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'homosexuels en Tchétchénie. On ne peut pas persécuter ceux qui n'existent pas. Voilà la réaction officielle. Et ensuite, le président Ramzan Kadyrov a été reçu par Vladimir Poutine. L'enquête a été ouverte par le parquet. En revanche, pour l'enquête, il n'y a pas de plainte. Comme il n'y a pas de plainte officielle, ils ne peuvent pas avancer. Et dans cette enquête, ce que disent les organisations des droits de l'homme, c'est qu'il ne peut pas avoir des plaintes parce que pour déposer plainte, il faut avoir des garanties de sécurité. Et ces homosexuels, ils n'ont pas de garantie de sécurité de la part des autorités ni de la part de leur famille parce qu'il y a une pratique dans cette région de la Russie de crimes d'honneur. Les familles qui sont au courant que leurs proches ont une orientation sexuelle non traditionnelle, ils les tuent.
Où il y a pour cette sauver, laver pour l'honneur sauver. De la famille.
Absolument. Et même si cette pratique est contraire à la constitution de la Russie, qui est valable sur le territoire tchétchène, les autorités sont assez tolérants vis-à-vis de cette pratique. Ce qui est aussi extrêmement inquiétant, c'est le discours qu'on a dans les médias russes. Un discours plutôt homophobe, même sur, on voit dans les commentaires des réseaux sociaux, dans les articles qu'on a publiés par exemple, même sur le site de RFI en langue russe, on a vu des commentaires, on a fait beaucoup de modération, parce qu'il y avait beaucoup de propos homophobes. On voit même les présentateurs très célèbres en Russie qui disent que l'homosexualité est une maladie. On a des députés qui disent qu'ils sont tous porteurs de sida. Donc vous voyez les propos quand même absolument pas tolérants.
On retrouve très largement ces propos chez une partie de nos auditeurs sur le continent africain. Pas tous, hein, mais je veux dire que la Russie n'est pas un cas isolé là-dessus. Safilouna, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Du tout, ce n'est pas un cas isolé. C'est pratiquement la même chose. C'est l'honneur de la famille qui est en jeu quand il y a un homosexuel dans la famille. Et on fait tout pour soit cacher l'homosexualité de l'enfant concerné ou soit le pousser hors de la famille pour qu'il n'y ait pas...
Toute la question est de savoir, est-ce que l'homophobie progresse ou est-ce que elle ne fait que se montrer davantage au fil des aspirations de ces hommes et de ces femmes qui veulent vivre librement comme tous les autres, Ana Navarro-Pedro.
C'est difficile à dire. Souvenez-vous que Poutine interdisait, enfin aussi persécute les homosexuels en Russie. Souvenez-vous que nous, en Europe, peut-être au siècle dernier encore, l'homosexualité était dans beaucoup de pays un crime, était un délit. Et quelque chose de caché dans les familles. C'est l'évolution a été assez rapide, mais récente.
La dépénalisation de l'homosexualité n'a été votée qu'au milieu des années 80, semble-t-il, en France. Et d'ailleurs, François Fillon avait voté.
Mais une fois contre, que, pour le rappeler. Une fois que la société s'empare du sujet, l'évolution peut être assez rapide. Donc c'est ce qu'on peut souhaiter, mais franchement, il n'y a rien à voir. C'est vraiment horrible ce qui se passe. Mais dans d'autres pays, l'Égypte, souvenons-nous aussi des procès d'homosexuels en Égypte et dans d'autres pays, ce qui est absolument effrayant.
Ce qu'il faut rappeler, ce que vous avez dit par rapport à la législation en 2012, il y avait une loi qui a été votée qui interdit la propagande de l'homosexualité pour les mineurs. Mais cette loi était assez répressive par rapport justement aux homosexuels. Et aujourd'hui, ils ont très peu de possibilités, des moyens de se faire défendre, même par les ONG, parce que en Tchétchénie, on a vu qu'ils ne peuvent pas parler sous anonymat. Ils mènent vraiment cette double vie et on ne voit pas de la part des autorités une volonté soit de mener une enquête, soit d'assurer la sécurité de ces personnes ou bien lutter contre les discours homophobes qu'on voit dans les médias. C'est pour ça que c'est une population assez stigmatisée et très très vulnérable.
Ouais, on y reviendra pour le 17 mai, journée mondiale de lutte contre l'homophobie, un grave sujet tout de même d'atteinte aux droits humains. Safilouna, vous souhaitez revenir sur cette double facette, vie privée, vie publique, dans la politique malienne où les scandales au-dessous de la ceinture n'épargnent pas le Mali. D'ailleurs, on ne voit pas pourquoi ça épargnerait le Mali, puisque c'est devenu si répandu depuis l'avènement des réseaux sociaux.
Alors, je reviens sur le cas de l'ancien conseiller technique économique du président de la République du Mali, en la personne de Monsieur Étienne Fakaba Sissoko. Ça s'est passé en début avril. Il a été dit que le monsieur a été renvoyé. Pourtant, on a vu sur les réseaux sociaux qu'il a montré sa lettre de démission pour des raisons politiques et pour des raisons d'idéologie. Alors, juste après sa lettre de démission, on voit deux vidéos sur lesquelles... vraiment, j'ai pas envie de me prononcer sur ça, mais il était avec une fille. Sur l'une des vidéos, il était en débardeur, en tenue détendue vraiment dans son...
Bref,
il
dans des préliminaires,
voilà,
on va dire,
il paraît
sexuel.
Que c'est dans son bureau. Je n'ai pas la confirmation que c'est dans son bureau.
En tout cas, une vidéo qui tourne d'ailleurs, qui est toujours disponible sur les réseaux sociaux, qui ne colle pas tellement avec l'image que doit avoir un conseiller chargé des questions économiques de la présidence de la République.
En tout cas, moi, ce que je voudrais dire sur ce sujet, c'est... À quelle fin les personnes qui se permettent de divulguer les vies privées des hommes politiques ou des personnalités, ça leur apporte quoi? De un, le journaliste, il est là pour informer les gens, pas pour les désinformer. Le journaliste, c'est une personne qui, entre guillemets, est là pour éduquer la population. Parce que si il y a des lois ou des changements dans un pays, ça doit passer.
Qu'est-ce qui vous scandalise alors? La mise en ligne de la vidéo ou
de la vidéo, ça nous apporte rien. Moi, citoyenne malienne, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Que le monsieur il soit infidèle avec sa femme. Honnêtement, ça ne change rien dans ma vie. D'autant plus que tous les hommes le font. Mais pourquoi publier certaines informations qui ne sont pas nécessaires à moi, ma vie, au déroulement de la politique de mon pays ou à la marche de tout ce qui va dans le pays? Ce sont
peut-être une petite formation au personnel politique en général pour expliquer qu'il faut toujours laisser son portable éteint à certains moments de la journée, non? Ça pourrait être utile.
De toute façon, que les portables soient éteints ou pas, avec le monsieur, si la fille filme, ça va sortir. De là aussi...
C'est elle qui a filmé ?
J'en ai aucune idée. En tout cas, les deux
sont... Non, ce qui est intéressant, c'est savoir qui a filmé, comment c'est sorti, pour quelle raison.
Je crois que sur l'une des photos, c'est la fille, mais sur l'autre des photos, c'est le monsieur.
D'accord. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une tierce personne,
en tout
cas.
Qui tenait la caméra. En tout cas, l'un des deux était volontaire.
Drôle de culture tout de même aujourd'hui, très répandue dans le monde, effectivement, de photographier ou de filmer. C'est Zeba.
C'est pas vraiment
Écoutez, ça date depuis longtemps. Remarquez, aux États-Unis, on nous dit que Trump est entre les mains de Poutine parce qu'il existerait une vidéo compromettante. Est-ce vrai ou pas? Je n'en sais rien.
C'est une pratique du KGB, hein, garder les compromates, ce qu'on appelle en langue russe.
Voilà. Elena Gabriel-Lyon est bien informée. Anna Navarro-Pedro, il nous reste quelques minutes. Très rapidement, vous souhaitiez nous parler de Bangkok qui veut interdire la cuisine de rue qui semblerait reculer, mais un pays qui est justement très célèbre pour ses fameuses nouilles sautées, presque à même le trottoir. Et effectivement, en ce moment, il y a de la friture sur le sujet.
Exactement, vous voyez très bien, j'avais bon choix de mots. Bah voilà, la junte militaire qui a pris le pouvoir et qui l'a pris carrément, puisque le judiciaire et le législatif est à la botte de l'exécutif, dans ce pays avait décidé à un moment donné, il y a très peu de temps, paf, on supprime les étals de rue.
Ouais. Alors, et surtout ceux de l'ordre et l'hygiène.
Voilà. Alors ça, c'était un mois après que la chaîne américaine, télévision américaine CNN, ait décrété que Bangkok était la meilleure destination de cuisine de rue au monde. Et effectivement, il y a eu une bataille sur les réseaux sociaux. Alors beaucoup des anglo-saxons, beaucoup de jeunes aussi là-dessus, pas que des Thaïlandais. Mais c'était une telle pression que la junte militaire, la dictature, a reculé, vient de reculer. Il dit non, mais nous a mal compris, on va mettre des règles d'hygiène beaucoup plus grandes, etc. En fait, c'est assez curieux que les réseaux sociaux ont eu un impact sur une dictature. Et puis, deuxièmement, cette junte militaire n'a pas compris que c'est quand même un poumon économique du pays, ces étals de rue, cette vente aux rues.
Et pour les acheteurs. Touchez aux estomacs et il vous en coûtera cher, c'est ça.
Et pour les acheteurs et pour les vendeurs. Les gens n'ont pas tous l'argent pour aller dans un restaurant normal.
Il y aurait plus de 400 000 vendeurs de
cuisine de rue. Il y a combien de familles peuvent manger
de cuisine de rue.
Voilà, littéralement ou figurativement. Non, c'est assez impressionnant, la disconnexion avec la population, avec la réalité de l'économie quand on est dans une dictature.
La cuisine peut être politique, finalement.
Mais tout est politique, Emmanuel, je vous le dis, dans le sens grand du mot.
Bon, vous restez avec nous, les tchatcheuses. Une journée de travail qui se termine à 13h. Qu'est-ce que vous en dites, les filles? Ça vous dit commencer à 8h, terminer à 5h. Oui. Non, terminer à 13h, c'est ça. Ça fait 5h de boulot. C'est bien ce que j'ai dit. 8h, 13h, c'est la réalité pour les entreprises. Les employés d'une entreprise californienne, on en saura un petit peu plus juste après. Bad Girls. Un bon
petit programme musical signé Hugo Violas à la réalisation de l'émission Bad Girls. Mia, on a nos Bad Girls nous aussi autour de la table, les chatcheuses. Une journée de travail qui se termine à 13h. C'est donc la réalité pour les employés de l'entreprise californienne Tower qui, depuis 2010, vend des paddles. Vous savez ce que c'est les paddles, les filles? Vous savez, c'est une espèce de planche flottante. C'est pour muscler son corps, pour ramer en mer. Safiluna nous regarde avec... Bon, elle est tellement bien faite. Safiluna n'a pas besoin de faire du paddle. Et ben, le PDG de cette start-up qui est basée à San Diego, en Californie, Stéphane Arstol, est convaincu que moins on passe de temps au bureau, plus on est productif. Et donc, il y a 2 ans, il a décidé de tester la journée de 5 heures et Charlie Dupio a recueilli son expérience, son retour d'expérience.
Jusque-là, dans mon entreprise, on travaillait avec des horaires de start-up, on faisait des grosses journées. Mais des employés auxquels je tenais ont commencé à quitter le navire. Et alors, je me suis demandé, comment faire en sorte de retenir plus longtemps ces employés dans l'entreprise? C'est là que j'ai eu l'idée d'instaurer cette journée de travail de 5 heures, de 8 heures du matin jusqu'à 13 heures, sans pause déjeuner. Je leur propose de leur rendre leur vie personnelle en dehors du travail, mais au travail, je maintiens la pression pour qu'ils soient performants. Tout le monde doit trouver comment réaliser la même quantité de travail qu'avant, en étant autant, voire plus productif. Et s'ils n'y parviennent pas, je les vire.
Et comment s'assurer que pendant leurs 5 heures sur place, les salariés soient à 100% à leur travail et ne soient pas perturbés par les réseaux sociaux, par leurs mails personnels et puis par d'autres distractions?
C'est vrai qu'il est bien plus facile de mesurer la productivité d'ouvriers en usine, car on peut voir matériellement le fruit de leur travail. C'est beaucoup plus difficile de mesurer la productivité des professions intellectuelles. Mais là, avec cette journée de 5 heures, c'est aux employés de se gérer tout seuls. C'est à eux, sous la pression du temps réduit, de trouver des façons créatives de travailler. Par exemple, les 2 employés du département expédition des colis ont dû apprendre à faire leur travail plus vite pour s'adapter à la nouvelle journée de 5 heures qu'on a mise en place. Et figurez-vous que la durée moyenne qui leur était nécessaire pour emballer un paquet est passée de 5 minutes à 2,6 minutes par paquet. Et cela en un mois seulement, sans que je vienne les superviser. Ils ont réussi parce qu'ils étaient pressés par le temps. Et puis grâce à cette mesure, mes employés peuvent maintenant sortir du bureau à 13 heures tous les jours. Ils ont une vie extraordinaire, ils peuvent assister aux matchs de baseball de leurs enfants, passer plus de temps avec leurs proches, ou mieux, se consacrer à leurs loisirs.
Et c'est l'idée en fait qu'être heureux rendrait plus productif.
Exactement. Le bonheur est un outil de productivité dans notre monde actuel. Et le point positif pour une entreprise, c'est que même en mettant en place cette journée de 5 heures, les coûts n'ont pas du tout augmenté. Je n'ai pas dû embaucher. Au contraire, au début j'avais 7 employés, aujourd'hui je n'en ai plus que 6.
Quel impact cette mesure a eu sur la productivité et la rentabilité de l'entreprise?
Notre rentabilité a augmenté de 50% depuis que nous l'avons mise en place. En 2015, nous avions réalisé 5 millions de dollars de chiffre d'affaires. L'année dernière, ce chiffre est passé à 7 millions et demi. Mais quand je parle de cette journée de 5 heures autour de moi, on me dit « c'est une idée socialiste, bien sûr que c'est génial pour les employés, mais comment cela peut-il être positif pour l'entreprise ?» Mais ces gens-là ne comprennent pas du tout. Moi, j'ai toujours vu cela d'un point de vue business, comme quelqu'un qui veut extraire encore plus de productivité de la part de ses employés. Mais il y a 2 mois, 4 d'entre eux sont partis dans une période de 90 jours. Cela m'a posé un vrai problème. Si j'avais mis en place ce rythme de travail, c'était aussi pour séduire les bons éléments, les convaincre de rester dans l'entreprise. Si vous avez un travail qui vous permet de bien gagner votre vie avec seulement 5 heures de présence nécessaire par jour, pourquoi diable voudriez-vous partir? Et à mon avis, ce qui s'est passé, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, c'est qu'à l'époque où nous étions une start-up avec de longues journées de travail, nous étions tous très liés les uns aux autres, tous dans le même bateau. Et c'est dur de quitter une entreprise dans ces conditions. On a l'impression d'abandonner ses collègues. Et quand on est passé à la journée de 5 heures, la vie personnelle hors bureau de nos employés est devenue ce qui comptait le plus pour eux. Le travail n'était plus qu'un à côté. Quitter l'entreprise leur était donc beaucoup plus facile. Ça m'a ennuyé, alors je me suis dit qu'il était temps de revenir à des horaires normaux, pendant 8 mois par an. Je continuerai d'appliquer la journée de 5 heures pendant notre période la plus chargée de l'année, de juin à septembre. C'est là qu'on gagne 70% de nos revenus.
Donc ça veut dire que la journée de 5 heures n'est pas un modèle durable?
Je pense que si. Il existe un grand nombre d'expériences similaires à travers le monde. En Suède, ils ont testé la journée de travail de 6 heures. D'autres entreprises aux États-Unis ont lancé la semaine de 4 jours. Ces expérimentations vont se poursuivre. Et pour moi, on s'oriente dans le futur vers la mise en place partout de cette journée de 5 heures. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que les gens soient encore prêts pour ça.
Voilà, et Stéphane Arstol a raconté son expérience dans un livre, La journée de travail de 5 heures, vivez différemment, débloquez la productivité, trouvez le bonheur. C'est pas encore traduit en français, donc vous avez compris les filles. 4 mois de l'année, journée de travail de 5 heures, et puis le reste de l'année, les 8 mois, journée normale, parce que finalement, il s'est quand même rendu compte que les gens finissaient par démissionner plus souvent, ce qui peut sembler paradoxal. Alors, le débat sur la journée de travail de 5 heures est ouvert. Il nous reste 2 minutes. Elena, qu'est-ce que vous en pensez ?
Son argumentaire me semblait très très convaincant parce que on voit que quand on a beaucoup de choses à faire, en peu de temps, on est parfois plus efficace quand on a une chose à faire pendant 8 heures ou 7 heures. Mais de l'autre côté, ça peut effectivement être un peu difficile pour les personnes qui ont besoin de déjeuner au travail, faire une pause café ou cigarette. Donc il y a ses contraintes et ses avantages, mais ça me semble plutôt convaincant.
Ouais, et pour vous, Anna Navarro-Pedro ?
Ce qui me plaît, c'est que le discours n'est pas utopiste. Il est vraiment les très pieds pragmatique. Sur terre. Ça ne peut pas s'appliquer à tout type d'entreprise, mais ça peut s'appliquer. Et puis, il y a des études sociologiques, psychologiques, médicales qui prouvent que notre capacité de travail au maximum dure 5 heures chaque journée.
Donc, vous seriez plutôt pour ?
Je suis plutôt pour toutes les expériences qui nous permettent d'avoir une vie, parce qu'on ne vit qu'une seule fois.
Mais vous avez entendu, c'est quand même aussi soit rapide ou casse-toi, quand même. Hein, et puis...
Absolument. C'est pragmatique. C'est pas utopiste. C'est ça que j'apprécie.
Si tu ne peux pas être rapide, tu es viré.
Et voilà. Et ce ne sera pas applicable à toutes les entreprises, ni à tout le monde.
C'est plus libéral qu'on ne pense, hein, finalement, Anna Navarro-Pedro.
mais il ne faut pas me mettre des étiquettes. C'est une erreur.
Safi Luna.
Je pense que c'est mieux. Soit tu fais le poids ou tu ne fais pas le poids. Quand tu fais le poids, tu fais ton travail en 5 heures. Tu finis, tu rentres à la maison, tu vas glander où tu veux, où tu bronzes, où tu vas utiliser tes planches de surf si tu veux. Mais 5 heures, honnêtement, tu peux juste aller après faire du shopping et ça va quoi.
Vive le taylorisme, mais en 5 heures, hein. Ce sera ça la conclusion. Merci à vous, surtout une révolution dans un pays, si ça pouvait avancer dans un pays où les employés n'ont droit qu'à 1 à 2 semaines de congés par an quand même. Et ce qui est quasiment, c'est moins que tous les autres pays développés à l'exception du Japon. Merci beaucoup mesdames, vous revenez quand vous voulez.
Avec plaisir.
Avec plaisir.
Pour animer le club des chatcheuses. Et merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Hugo Violas, Didier Cherouze, Thomas également à la place de Camille Nérand. Demain, 7 milliards de voisins. Charlie Dupiot présentera l'émission. Vous réagirez sur l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Bien sûr, toujours le même numéro de téléphone du standard. 33 1 84 22 71 71. Dans quelques secondes, ce sera le journal sur RFI.